Oriane Gros, merci de nous rejoindre. On vous a aussi beaucoup évoqué, hein, oui, on applaudit, maître de conférence en neurosciences et qui va nous parler un petit peu d'art et aussi de prévention. Merci beaucoup, hein. 15-20 minutes et un peu de questions-réponses. Merci à vous. Rapidement.
Merci. Et merci aussi à la Fondation Recherche Alzheimer pour m'avoir conviée à ces entretiens. Et j'espère, en tout cas, je suis très contente d'être ici. Donc, je vais vous parler d'art, effectivement. Donc, et d'art comme outil de prévention et de prise en charge. Alors, la première question que je peux vous poser, c'est quel est le point commun, selon vous, entre prévention et prise en charge ? Quoi le point commun ? Je vous donne la réponse ?
Bon, allez.
Donc, c'est l'intérêt de stimuler son cœur et son cerveau. Quand je parle de cœur, vous allez voir, j'en parle de manière métaphorique, mais c'est vraiment l'intérêt, dans tous les cas, que ce soit en termes de prévention ou aussi d'action contre les symptômes, de stimuler son cerveau. Et qu'est-ce que permet l'art, par les stimulations sensorielles, justement, de stimuler son cerveau ? Donc, ça va stimuler son cerveau, et quand on parle de cerveau, on en a beaucoup parlé, on parle de la matière grise. Donc, la matière grise, ce que vous voyez avec les différents lobes, on a parlé du lobe frontal. Pour tout ce qui était planification, on peut parler du lobe occipital, donc qui est derrière. Pour le côté vision, le lobe temporal, plutôt derrière mon oreille. Ici, où il y aura l'hippocampe, dont vous a parlé le professeur Dubois. Mais aussi, on parle moins de la matière blanche. Alors, qu'est-ce que c'est la matière blanche ? C'est les routes qu'on a entre nos différents lobes. Donc, c'est des faisceaux sous-corticaux qu'on voit. On voit déjà le côté artistique de ces fibres de matière blanche. On voit, c'est très joli. Donc, ça ressemble un peu à un tableau d'art. Et il y a d'ailleurs un neurologue qui en fait des œuvres d'art. Et la créativité, qu'est-ce que ça développe ? Ça développe notamment les fibres qu'on appelle interhémisphériques. Donc, il y a trois types de fibres. Il y a les fibres intra-hémisphériques, c'est-à-dire dans le même hémisphère, qui vont rejoindre des lobes différents, et des fibres interhémisphériques. Vous avez compris, on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. On dit généralement que le gauche, c'est le langage, que c'est le droit, c'est la créativité. Mais quand on est des personnes artistiques, quand on est créative, eh ben, ces deux hémisphères ils sont beaucoup plus équilibrés. Et nos fibres, au niveau donc, du corps calleux, c'est là où ça se rejoint, est beaucoup plus dense. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a une cognition qui va être en tout cas plus souhaitée. Donc, vous avez compris que pour avoir un cerveau en bonne santé, on doit avoir une matière grise qui est un peu grassouillette, qui est dodue comme ça, qui a pas d'espace, et des bonnes fibres bien denses. Et faire de la musique, bah, ça permet d'agir sur ces fibres. Alors là, je vous présente une étude qui a été menée chez des enfants qui avaient entre 6 et 12 ans et qui ont pratiqué la musique pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, ils ont fait, alors là, c'est justement une méthode de tractographie, ils ont regardé les fibres de matière blanche. Donc, je rappelle, hein, c'est ces petites autoroutes en double sens qui vont donner les informations d'un lobe à un autre ou d'un hémisphère à un autre. Et ces fibres de matière blanche, qui sont ici, on le voit en poste, se sont densifiées. C'est-à-dire qu'elles sont devenues plus charnues, et ce qui montrait aussi qu'elles avaient une meilleure activité au niveau frontal. Là, on voit, hein, ça c'est le niveau frontal, on voit le nez qui est là, et juste au-dessus, le front. Donc en résumé, faire de la musique va justement densifier nos faisceaux sous-corticaux. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être un musicien pour stimuler son cerveau. Et ça, je vais vous le montrer par une vidéo qui est assez explicite. Alors, il faut faire attention, parce que le professeur Dubois, tout à l'heure, il vous a montré une technique de PET amyloïde qui monte des zones rouges. Et là, le rouge était mauvais. C'était l'alerte. Moi, je vais vous montrer de l'IRM fonctionnel. Et là, quand c'est rouge, c'est bien. Parce que ça veut dire que c'est très activé. Et quand c'est bleu, c'est moins bien. Ça veut dire que c'est moins activé. Et alors qu'on s'attend, quand on écoute de la musique, à ce qu'il n'y ait que le côté temporal, c'est-à-dire là où on a l'air auditif qui s'allume, et bien en fin de compte, beaucoup de zones deviennent rouges. Donc je vous propose, c'est sur un air de tango, hein, de regarder. Regardez un petit peu comment le cerveau va s'allumer. Et je vous ai marqué un petit peu toutes les zones qui s'activent en même temps. Donc on a le cortex moteur, tout simplement parce que quand on écoute de la musique, on s'imagine danser. Donc c'est pour ça qu'on a le cortex moteur qui s'allume. Le cervelet, parce qu'on a besoin, quand on imagine la musique et qu'on s'imagine danser, d'avoir notre équilibre. Le cervelet est en charge notamment de l'équilibre. Le noyau accumbens, là, c'est la motivation. Quand j'écoute de la musique, j'ai envie de danser. Donc ça va stimuler ma motivation. Mon cortex auditif, forcément, et mon cortex sensoriel. L'hippocampe, parce que quand j'écoute de la musique, ça me rappelle une musique que j'ai déjà entendue. L'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est une petite structure qui est atteinte aussi de manière très précoce dans la maladie d'Alzheimer et qui est très proche de l'hippocampe. Ils sont un petit peu collés. Et l'amygdale, qui est en charge de notre ressenti émotionnel, va aussi s'activer quand on écoute de la musique. On n'entend pas la musique fort, mais est-ce que vous l'entendez un peu quand même ?
Pas tellement.
Ah, un petit peu plus fort ? On est au maximum. Ça stimule votre audition. Alors, on a parlé de l'audition, mais rien que le côté visuel aussi va avoir une stimulation. Et il y a peu de temps, moi, j'étais à Montréal pour une conférence sur la muséothérapie. Et il y avait, on parle beaucoup des Canadiens pour la muséothérapie. Alors, à tort, on pense que c'est vraiment les précurseurs. En réalité, les précurseurs, c'est les Anglo-Saxons, notamment avec Guy Noble et Hélène Charteret, j'espère que je prononce bien son nom, et qui s'étaient intéressés dès les années 90 aux effets que peuvent avoir la vision d'œuvres d'art chez des patients, ou chez des personnes d'ailleurs sans troubles cognitifs. Ils avaient utilisé ces échelles, là on voit, pour mesurer leurs émotions. Ils avaient aussi vu que ça améliorait leur satisfaction de vie et leur statut de santé. Depuis, pas mal d'études se sont mises en place et ont montré aussi qu'il y avait des effets sur la cognition et notamment sur la communication et sur le lien social. Donc ça, c'est les travaux notamment de Nathalie Bondil. Donc la première personne vraiment à avoir mis le terme muséothérapie, comme breveté le terme muséothérapie, c'est Nathalie Bondil qui était la directrice du Musée des Beaux-Arts à Montréal, qui maintenant est la directrice de l'Institut du Monde Arabe à Paris et qui, vraiment, elle était lors de cette conférence, prêche pour une prescription de musée en montrant qu'il y a vraiment un effet aussi d'aller au musée sur le côté cognitif. Pour la petite histoire, ce terme de muséothérapie a été développé en 2009 aussi dans les pays anglo-saxons, donc on voit qu'ils se battent un petit peu toujours la première place, mais on n'est pas en reste, on fait aussi des travaux à ce niveau-là et je vous en parlerai dans les suites. Alors, regarder une œuvre d'art stimule la cognition, mais créer une œuvre d'art, ou pas, je mets ou pas, parce qu'on n'a pas besoin d'être un artiste pour créer une œuvre d'art. Créer de l'art, c'est créer un tableau, mais ce n'est pas forcément, après, l'art est très subjectif, et donc le côté œuvre d'art ou non l'est aussi. Alors là, c'est une étude qui a été menée avec la pratique artistique, donc de type art-thérapie, pendant 9 mois, et il y a un test de mémoire, donc de mémoire qui s'appelle un test de Ray, et qui est en fait le fait de retenir des mots de manière immédiate, après avec un délai, et ensuite de les reconnaître, ces mots. Et là, les scores au test sont montrés ici. Comme vous voyez, la ligne verte, c'est les participants qui avaient fait une pratique artistique. Pour ceux qui étaient en orange, c'est ceux qui avaient fait de la musicothérapie, on va dire, donc écouter la musique qu'ils connaissaient, et donc la musique dans un point de vue de réminiscence. Et les gris, c'est les contrôles, donc ceux qui ne faisaient absolument rien. Ce qu'on voit, c'est que les seuls qui avaient la significativité, c'est ceux qui avaient fait l'activité artistique participative, hein, donc qui avaient vraiment créé, avec un effet à la fois sur le score global et sur le rappel immédiat de ces mots, donc avec un effet sur la mémoire. Alors après, je vous ai parlé d'audition, je vous ai parlé de vision, mais rien que les odeurs aussi peuvent stimuler notre cerveau. Et le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est le cerveau des nez. Alors les nez, ce n'est pas que des nez, c'est des cerveaux aussi, et vous allez le comprendre vite. Et plus on est âgé, on se dit souvent, quand on vieillit, on va perdre de la matière grise, donc c'est-à-dire du volume au niveau de ce cortex que je vous ai montré. Et ben, ce n'est pas forcément vrai, notamment pour les nez des parfumeurs. Là, l'étude était menée sur des personnes qui n'avaient aucune expertise dans les odeurs, et là, c'est des parfumeurs experts ou non experts. Ce qu'on peut voir, là, c'est le calcul du volume de différentes zones. Là, on est au niveau du cortex orbitofrontal, donc c'est-à-dire la perception consciente de l'odeur. Là, on est au niveau du cortex piriforme antérieur, ça, c'est la représentation imagée de l'odeur. Et on voit que ces zones-là, en termes de volume, pour les experts parfumeurs, augmentent avec l'âge. Là, on a l'âge en bas, alors que ça diminue pour ceux qui ne stimulent jamais leur olfaction, quoi. Ou en tout cas comme vous et moi, qui n'en font pas aussi vraiment un goût ou un métier. Donc en bref, le fait que la taille du cerveau diminue n'est pas une fatalité et peut être stimulée aussi. Or, se rappeler les odeurs montre aussi, reflète notre cognition. Là, je vous ai mis une étude de Pirada qui commence à être un peu vieille, mais qui est toujours aussi efficace, qui montre, là, c'est une échelle globale de cognition. Et là, c'est l'identification, c'est-à-dire qu'on présente des odeurs aux gens et on leur demande, sur des images, de dire ce que c'est. Donc, leur score à ce test-là était parallèle avec l'échelle globale cognitive. C'est-à-dire que la façon d'identifier les odeurs permettait d'évaluer la cognition. On a mené une étude et avec nos collègues canadiens qu'on a publié cette année. Là, je vous ai mis que chez des sujets inclus en France, mais vous pouvez doubler le nombre, hein, vu qu'on a inclus le même nombre de sujets au Canada. Et on a mis en évidence que par un test olfactif, et notamment par le score d'identification des odeurs, donc c'est pas « je sens mal », il ne faut pas se dire « ah, je sens moins les odeurs que d'habitude », ça veut dire que je développe un trouble cognitif. C'est vraiment le fait d'identifier, d'arriver à identifier quelle odeur c'est, et non pas de la nommer. Pareil, nommer une odeur, c'est complexe. Hein. Et donc là, quand on regarde, les témoins, donc les personnes sans trouble cognitif, avaient des scores bien plus élevés, donc avec une différence significative, que les personnes qui présentaient des troubles cognitifs légers dus à une maladie d'Alzheimer. Alors, on a parlé d'entretenir son cerveau, d'entretenir sa matière grise et sa matière blanche. Maintenant, je vais parler d'entretenir son cœur ou plutôt ce qui le fait battre. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de cœur en termes cardiaques, mais plutôt des émotions. Donc, sentir les odeurs, ça nous active émotionnellement. Alors là, c'est une étude que j'avais menée au CHU de Dijon, dans un département de neurophysiologie, et où on prend la réponse électrodermale. Alors la réponse électrodermale, ça paraît très complexe à comprendre comme ça, mais c'est très simple. En fait, vous voyez là, par exemple, je suis activée émotionnellement, hein, mais c'est que du plaisir, je vous rassure. Et donc forcément, j'ai mon micro qui est un peu mouillé, parce que mes glandes sudoripares sont activées, et donc je vais avoir les mains plus moites que d'habitude. Mais avant même que mes mains soit moite et qu'il y ait de la transpiration, je vais avoir l'activation de cette glande sans même que j'ai de l'eau sur les mains. Donc là, on mesure l'activité de ces glandes à la surface de la peau pour témoigner de l'activation physiologique et émotionnelle. Ce qu'on a vu, c'est que le fait même de sentir une seule odeur, donc là, paracrésil, c'est l'odeur du crottin de cheval. Donc ça, c'est sûr que ça nous active, hein, on le sait. Alors, cistrohexanol, c'est l'herbe coupée. Eugénol, alors qui est très activateur aussi, qui a un côté très culturel et qui nous rappelle le dentiste, je pense que vous pouvez deviner, c'est le clou de girofle. Exactement. Et donc on voyait que ce soit des patients qui présentaient des troubles de type maladie d'Alzheimer ou des personnes sans troubles, ces odeurs étaient très activatrices, donc permettaient de stimuler des émotions. Alors, voir ou ressentir, c'est un peu la question. Quand on voit quelque chose, est-ce qu'on est plus activé? Est-ce que notre amygdale, comme on a dit, qui est importante, hein, qu'on a besoin d'activer au niveau cérébral, va être plus actif quand je vois un film ou quand je sens une odeur? À votre avis? Quand je vois un film. Quand je vois un film, généralement, tout de suite, ça m'active et ça m'active fort. Là, on a fait un test avec l'équipe, c'est-à-dire de regarder 7 films de suite et cette odeur de suite, et de regarder comment ça active. Donc le film, au début, il active beaucoup au niveau émotionnel, mais après, on a tendance à s'habituer, parce qu'on sait que ça nous active et on régule. Donc au final, à force de présentation, mon activation émotionnelle, elle est plutôt faible. Par contre, l'odeur, elle commence bas, mais elle est très stable, voire elle augmente. C'est-à-dire qu'une odeur va avoir cette faculté de nous activer émotionnellement de façon durable, ce que le film, par exemple, la stimulation visuelle ou auditive ne va pas permettre. Alors ça, c'est une autre expérience. On est plutôt dans la création digitale parce que l'art n'a pas de frontières technologiques. Et donc dans la création digitale, c'est une vidéo de 9 minutes où il y a un environnement qui se met en place avec une gestion, un contrôle des éléments visuels et auditifs. Et on avait ce petit dispositif. Donc vous voyez, ça permet d'avoir la réponse électrodermale. Donc on parle de résistance et de conductance. Quand mes glandes sudoripares sont activées, j'ai plus d'eau qui va passer. Donc ça va faire... la conductance va être augmentée. Si je suis moins stressée, c'est ma résistance qui va augmenter. Et on avait aussi mis un petit casque comme ça qui nous permettait d'avoir l'activité des régions frontales et préfrontales. On revient sur ce lobe frontal du cerveau. Ce qu'on a montré, c'est que l'immersion permettait, donc peut activer émotionnellement positivement, mais aussi réduire l'anxiété que ce soit des personnes sans troubles cognitifs, donc là on le voyait en orange foncé et en beige, ou des patients présentant des troubles cognitifs légers. Donc ça, ça nous intéressait particulièrement au Centre Mémoire, Ressources et Recherches. De la même manière, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une augmentation de l'activité préfrontale. Donc ça, ça s'accompagne aussi d'une stimulation de la zone préfrontale du cerveau. Alors en pratique, hein, parce que là je vous ai dit beaucoup de choses théoriques, mais ça permet de comprendre qu'effectivement il y a des fondements scientifiques qui expliquent que la stimulation sensorielle permet de stimuler le cerveau, et que ce soit dans ses côtés cognitifs ou dans ses côtés émotionnels, hein, parce que l'émotion, on sait, ça ne vient pas du cœur, ça vient du cerveau, et c'est aussi une compétence cognitive. Donc à Arizanté en pratique, c'est un projet qu'on a mis en place suite à une visite chez nos amis canadiens. J'y vais souvent, vous l'aurez compris. Et donc j'avais été en 2018, et ils m'avaient présenté un projet qu'ils avaient mis en place aussi à New York, à Singapour et à Londres, qui consistait à vérifier l'effet d'une pratique artistique participative sur le bien-être, la santé globale de différents participants seniors sans troubles. Donc vraiment dans un côté aussi optique de prévention. On a inclus à Nice 127 participants. Donc il y avait des personnes qui ne faisaient pas les activités artistiques, il y avait des personnes qui le faisaient. On s'est appuyé sur trois éléments, des ateliers musicaux, donc avec vraiment un musicien, hein, c'était des artistes qui venaient animer des ateliers d'art plastique pour le côté un petit peu plus touche tactile, hein, pour le sens tactile, et photo pour le sens visuel. Et tout ça, c'était un mois pour chaque atelier. Je sais pas, est-ce que des personnes avaient fait des ateliers à Arizanté ici? Ah, vous connaissez. Est-ce qu'ils ont aimé? Ah, déjà, ça, c'est un bon retour. Alors, elle va montrer une photo. Désolée pour les problèmes techniques. Elle va montrer une photo où c'est écrit « Soyez motivés ». Donc, que vous connaissez, hein, du fameux artiste Ben. Et c'est vraiment sur ça, c'était un peu un côté prémonitoire, c'est vraiment sur ça qu'a eu un effet les ateliers, c'était en tout cas l'effet le plus significatif. C'était sur l'apathie, on vous en a parlé, hein, tout à l'heure de l'apathie, étant donné que le grand expert est ici, hein, le professeur Robert. Et on a l'apathie cognitive, c'est-à-dire le manque d'action dirigée vers un but, mais on a aussi l'apathie émotionnelle qui est tout simplement l'émoussement des affects. Quand on a des affects qui vont être émoussés et qui est un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Et là, on a vu que, alors que les deux groupes partaient du même niveau, le groupe qui avait fait les activités artistiques participatives, donc le groupe musée, avait un niveau d'apathie beaucoup plus bas, significativement plus bas que les patients qui n'avaient pas réalisé cette activité. Le dernier projet, c'est la suite. Je vous ai beaucoup parlé d'olfaction parce que moi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et on ne l'avait pas du tout traité dans le premier projet. Donc, on a mis en place un autre projet qui est soutenu toujours par le CHU de Nice, mais aussi par l'Université Côte d'Azur, qui s'appelle Orevas et qui a pour but de stimuler l'olfaction et la cognition à travers une activité artistique qui se fait soit en présentiel, soit en distanciel. En fait, on va regarder aussi vraiment la différence. Quelle est la part de l'effet dû au lien social, quelle est la part de l'effet dû à l'activité artistique elle-même. Et donc l'application a été faite avec l'association du musicien qui était déjà dans Arizanté, qui s'appelle Laurent Tamagno, et d'une née, donc un parfumeur, qui s'appelle Aude Galouille. Donc, je ne vais pas vous montrer l'application, mais vous savez que si vous êtes intéressé, c'est disponible aussi sur l'Apple Store et Android.
Merci infiniment.
Je vais finir par vous remercier de votre attention. Pardon. Et par vous poser une dernière question, est-ce que maintenant vous êtes prêt à réveiller l'artiste qui est en vous? Donc là, vous aviez.
Parce qu'il y a un artiste en vous, c'est ça. Merci, merci infiniment. On retrouvera toutes les informations sur le site de la Fondation.